France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
L'abolition des privilèges de 1789 constitue un moment clé de la construction de l'histoire nationale française. Alors que nous avons aboli ces avantages injustes il y a plus de 200 ans, la notion de privilège continue pourtant d'être invoquée largement dans le débat public, dans les mouvements sociaux, parmi les responsables politiques, pour décrire des situations extrêmement diverses, avantages des élus, position des ultra-riches, statut des fonctionnaires et même des cheminots. Alors qu'est-ce qu'un privilège véritable? Et la société française est-elle, reste-t-elle une société de privilèges? Deux invités pour en débattre ce soir. Alice de Rochechouart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en philosophie, vous avez publié en septembre dernier « Privilèges au pluriel, ce qu'il nous reste à abolir », c'est aux éditions Lattès. Vous animez par ailleurs le podcast intitulé « Le fil PHIL d'actu », le fil d'actu qui propose des analyses philosophiques de l'actualité. Face à vous, Erwan Lenoir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant, essayiste, vous enseignez le droit économique et de la concurrence à Sciences Po. Vous avez publié l'ouvrage intitulé « L'obsession égalitaire, comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice ». C'est aux éditions de la Cité, cela a paru en 2023. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Qui sont les privilégiés, les vrais ?
Moi, je suis pour la suppression de toute forme de privilège. Et je trouve tout à fait normal que les premiers ministres donnent l'exemple.
Avec les faibles revenus des uns, des autres, et tout qui augmente, mais c'est de plus en plus compliqué. Mais malgré tout, on est privilégié parce qu'on a du travail.
Les hommes politiques se sont taillés des privilèges sur mesure.
Comme des costumes.
Je pense qu'il est temps de faire l'abolition des privilèges. Mais il n'y a pas que les hommes politiques, d'ailleurs.
Les AFP, ils sont en haut, c'est eux qui sont sur le pouvoir, et je pense que c'est une question de privilège.
Rappelons que la France se distingue pas seulement pour son nombre élevé de fonctionnaires, mais surtout par le statut de ces derniers qui sont ultra protégés. Ils disposent d'un emploi à vie, d'un temps de travail réduit, de nombreux congés, d'augmentation de salaire automatique non fondée sur le mérite, et d'autres privilèges comme les logements sociaux.
Et un jour, ça va péter. Nous, on veut la révolution, de toute façon. On veut une 6e République, on veut la fin de tous les privilèges.
Alors, on l'a dit, Alice de Rochechouart, hein, officiellement, les privilèges ont été abolis en France en 1789, durant la nuit du 4 août. Et pourtant, cette notion revient sur le devant de la scène dans le débat public. Elle est mobilisée pour nommer des choses extrêmement diverses. Comment est-ce que vous expliquez ce retour ?
Alors, un retour ou un terme qui n'a finalement jamais disparu, c'est effectivement un terme qui hante perpétuellement notre imaginaire social et notre imaginaire surtout contestataire. Vous avez parlé des privilèges, on pourra y revenir, des cheminots et des fonctionnaires. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette appellation, on aura le temps d'y revenir. En revanche, pendant les contestations, par exemple, des gilets jaunes, c'est un terme qui a été beaucoup employé. Dans les cahiers de doléances, par exemple, c'était présent dans un peu moins de la moitié des cahiers. De même, là, pendant les contestations du 10 septembre, on entend réclamer l'abolition des privilèges. À mon avis, il faut se saisir de cette persistance du terme pour se dire que ça décrit effectivement quelque chose. À mon avis, ce qui s'est passé en 1789, c'est qu'on a effectivement aboli des privilèges juridiques, ceux de la noblesse et du clergé, mais on n'a pas véritablement bouleversé les structures sociales, en particulier les hiérarchies injustes, et c'est ça qu'on peut aujourd'hui appeler privilège.
Qu'est-ce que vous appelez fondamentalement privilège, Alice de Rochechouart ? Qu'est-ce qui distingue, par exemple, un privilège d'un avantage ?
Alors, je l'ai défini comme étant les avantages injustes dont bénéficient certains groupes sociaux au détriment des autres. Donc il y a immédiatement une question de justice, et je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter de quelle est la définition de la justice, parce qu'évidemment tout le monde la définit pas de la même manière. Je vais peut-être pas anticiper
On va faire réagir Erwan Lenoir. Comment est-ce que vous expliquez vous-même que cette notion-là, celle de privilège, soit largement, amplement mobilisée dans le débat public actuellement?
Parce que je pense que dans la notion de privilège, elle renvoie, vous l'avez dit, il y a un sens politique, historique très fort. Et il y a une dimension politique qu'à mon avis, on ne retrouve pas dans le terme d'inégalité et d'injustice. Moi, je distinguerais les trois. Vous avez les inégalités, que je définirais en une différence de situation. Une injustice qui est l'idée que cette différence de situation n'est pas justifiée au regard, par exemple, du mérite. Et dans le privilège, je crois qu'on y ajoute à cette injustice cette idée de relation de pouvoir, probablement. Et en plus, je pense, une injustice qui est octroyée par une décision publique. Le privilège, c'est découle d'une situation protégée juridiquement, souvent par la puissance publique.
Vous êtes d'accord avec cette définition, Alice de Rochechouart ?
Alors oui et non. Je suis totalement d'accord sur le fait que quand vous décrivez les privilèges comme étant un pouvoir qui s'exerce. Et ça, je suis totalement d'accord. Ce qui est un peu moins dans l'injustice, c'est un terme un peu plus flottant peut-être à mon avis. Les privilèges, effectivement, s'exercent. C'est-à-dire les personnes qui détiennent un certain nombre de privilèges vont les exercer sur autrui. Donc c'est bien un terme qui est dynamique en fait, qui n'est pas juste des structures sociales, mais qui décrit aussi la manière dont on intériorise ces avantages injustes et dont on les exerce sur autrui. En revanche, alors je sais que vous êtes spécialisé en droit, donc je comprends que vous fassiez référence à la dimension juridique. Je pense qu'aujourd'hui, cette dimension juridique, elle est trop restrictive pour définir les privilèges. Et en fait, ce qui s'est passé en 1789, c'est qu'il y a l'ABCIS qui a été le pourfendeur des privilèges, qui a écrit un essai sur les privilèges, qui était vraiment un best-seller, un pamphlet qui a tourné dans tout Paris en 1788. Et qui, lui, a modifié la définition du privilège pour ne plus en faire un terme uniquement juridique, comme c'était le cas jusqu'à présent dans l'Ancien Régime, mais pour en faire aussi un concept moral, c'est-à-dire un concept infamant. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se saisir vraiment de cette dimension, pas uniquement symbolique, mais voilà, ce sont des structures injustes qui sont pas uniquement, à mon avis, juridiques ou qui ne s'incarnent pas forcément dans le droit.
Je suis d'accord. Réaction, Erwan Le Nain.
Oui, je suis d'accord dans le fait que c'est pas uniquement juridique. Ce que je voulais dire par l'intervention de la puissance publique, c'est que je pense que le privilège, c'est une situation qui est protégée par l'État. Le privilège dans le marché, ça n'existe pas. Le marché, c'est la concurrence, c'est la mobilité. Alors ça a ses défauts, mais c'est un principe de concurrence et de mobilité, de fluidité. Ce qui vient bloquer ce principe de fluidité, c'est une intervention publique, qui peut être demandé par des acteurs privés eux-mêmes, mais qui vient figer juridiquement la situation d'injustice.
C'est la règle publique qui vient créer,
Et je pense que là, on aura probablement un débat, mais je pense que la règle publique, oui, est la source du privilège, là où le marché, lui, a d'autres défauts, mais il repose sur la mobilité.
Alice de Rochechouart, dans le fond, si on écoute Erwan Le Nain, les privilèges, c'est le fruit de l'action, de l'intervention de l'État. Il faut peut-être un peu plus de marché pour s'aborder les privilèges.
Oui, alors évidemment, je ne vais pas être d'accord avec ça, mais je suis assez curieuse de savoir ce que vous entendez par privilège dans ces cas-là. Quelle serait cette réalité que l'État viendrait juridiquement figer ? Je fais juste une toute petite parenthèse. Votre définition du marché me semble très... prise dans un paradigme qui est celui du paradigme néoclassique, si je me trompe pas, de la concurrence pure et parfaite, qui est, enfin, vous l'avez parlé de fluidité, de concurrence.
Eh oui, mais justement, c'est pas la concurrence, mais on va pouvoir y revenir. Mais c'est, en fait, dans la manière de voir la concurrence, vous avez deux façons de voir la concurrence. Une concurrence qui est néoclassique et une concurrence qu'on attribue plutôt à Hayek. La concurrence néoclassique consiste à dire que il faut une intervention publique pour organiser la concurrence dans le marché. Et c'est ce qui dirige, par exemple, la politique de la Commission européenne, la politique de l'autorité de la concurrence en France. Et donc, l'intervention publique est légitimée pour favoriser le dynamisme du marché. Dans l'école hayekienne, c'est radicalement inverse.
Vous Hayek, économiste, penseur autrichien du libéralisme contemporain.
Exactement. Néolibéralisme, plutôt. Fondateur de ce qu'on appelle le néolibéralisme.
Oui, à la limite, qu'importe le terme, mais c'est effectivement une plus récent dans l'histoire du libéralisme. Et Hayek explique que c'est la performance des entreprises ou des acteurs économiques qui fait leur situation, qui donne leur situation dans la société. Et donc c'est la concurrence libre et spontanée qui détermine les structures de la société. Et que l'intervention publique vient protéger des situations. Et je me permets de répondre à votre question. Qu'est-ce que je définis comme des situations de privilège ?
Et au-delà, pardonnez-moi pour tirer le fil de la question que vous posez à Alice de Rochechouart, où se logent par conséquent, selon vous, les privilèges aujourd'hui dans la société française ?
Les privilèges peuvent être des situations qui sont considérées donc, comme injustes et protégées. Ça peut être,
par exemple ?
Ça peut être, par exemple, une situation... sur la politique des retraites, des régimes spéciaux, ça, par rapport aux autres, qui sont aux autres régimes, ça peut être les aides aux entreprises. On a beaucoup parlé d'entreprises. Moi, je pense qu'il y en a, il y en a une partie qui est justifiée. Mais vous avez des politiques publiques qui viennent protéger les entreprises de la concurrence. Les politiques douanières, qui viennent limiter le commerce international, qui viennent protéger les entreprises de la concurrence. C'est une forme de privilège. Après, il y a une question suivante qui est de savoir, et pour les régimes spéciaux, par exemple, et pour les situations des entreprises, si c'est ce que la société estime comme étant acceptable pour justifier ces injustices.
Une réaction, Alice de Rochechouart, sur le premier point. Vous l'avez évoqué, la situation des fonctionnaires, des cheminots. L'argument revient souvent selon lequel leur statut, notamment leur régime de retraite, serait une forme de privilège. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que quand on dit ça, on fait une confusion entre le terme de privilège et le terme d'avantage, à mon avis. Quand on parle, par exemple, et là d'ailleurs ça se ressent dans les exemples que vous donnez, puisque vous donnez des exemples, donc les retraites des régimes spéciaux et les aides aux grandes entreprises, par exemple. Un avantage, en fait, quand on parle des cheminots, par exemple, il faudrait plutôt parler de compensation de désavantages. C'est-à-dire que ils ont obtenu un certain nombre de dérogations ou de particularités. Au terme, c'est plutôt des conquis sociaux, hein, en termes d'une lutte sociale, pour compenser des désavantages liés, par exemple, à la pénibilité, au travail le week-end, etc. Quand on pense identifier un privilège dans la société, il faut toujours se demander, est-ce que cet avantage contribue à un système plus large de domination? Quand on voit le cas des cheminots, on voit bien que ce ne sont pas aujourd'hui les cheminots qui dirigent la France, qui ont du pouvoir en France, et qui sont, alors même si on entend souvent ces phrases de prise d'otage pendant les vacances de Noël, mais en réalité...
Référence aux grèves, notamment, oui, voilà. Des cheminots et de la SNCF.
Voilà. Et là, dans la société, on voit bien que les cheminots n'ont pas de pouvoir politique, sociologiquement et financièrement n'ont pas de pouvoir économique, etc. On ne vit pas dans une cheminocratie, enfin, ça n'a absolument aucun sens de dire ça. En revanche, quand on regarde, par exemple, les privilèges des anciens présidents de la République ou des représentants enfin les élus, à ce moment-là, on peut parler de privilèges parce que ces avantages leur permettent de consolider leur domination politique. C'est-à-dire que ça leur permet, alors ça, je pourrais encore développer là-dessus, mais ça va renforcer de l'oligarchie en réalité.
On va revenir, Alice de Rochechouart, sur les ministres et les députés, mais une réaction avant cela, Erwan Lenan, justement sur les cheminots. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, effectivement d'avantages plutôt que de privilèges, en l'occurrence ?
Alors, j'avoue que je connais pas assez bien le système des cheminots, mais les régimes spéciaux, de manière générale, sont pour moi des privilèges. Mais je voudrais reprendre les deux arguments que vous donniez. Par exemple, le fait que les régimes spéciaux viendraient compenser un désavantage, si je ne me trompe pas. Bon, en fait, c'est exactement le discours, par exemple, qu'ont les entreprises qui demandent des barrières commerciales. Elles viennent dire qu'on a besoin de barrières commerciales pour venir protéger le désavantage d'autres désavantages qu'on subit. Ensuite, sur un discours de domination, le fait que ça sert à une politique de domination, je suis prêt à éventuellement vous suivre, pardon, mais les cheminots ou les régimes spéciaux de retraite, est-ce que c'est pas au fond un mécanisme de domination des boomers sur la nouvelle génération qui laisse aujourd'hui une
domination
énorme.
Intergénérationnelle ?
Exactement. Je veux dire, on peut tout lire. J'ai l'impression qu'on peut relire aussi ces deux exemples en inversant la logique qui était présentée.
Alice de Rochechouart.
Alors, je suis pas totalement d'accord d'inverser la logique. Pour prendre l'exemple des régimes spéciaux de retraite. Alors, les cheminots, pour répondre très brièvement, depuis que justement ces compensations de désavantages ont été supprimées il y a maintenant 5 ans, ils n'arrivent plus à recruter. Donc, c'est quand même bien que c'est ce qui permettait de rendre le métier supportable. En tout cas, voilà. Pour revenir sur la question des retraites, les retraites des boomers, effectivement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a sans doute des distinctions à faire entre des retraités qui ont des privilèges parce qu'ils ont des grosses retraites et l'accès à la propriété et des petites retraites. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre dans la même case.
Non, mais en moyenne, aujourd'hui, les retraités ont un pouvoir d'achat bien supérieur à celui des actifs et encore plus des jeunes. Le taux de pauvreté des jeunes est bien plus élevé que celui des retraités.
Bon, on ne va pas faire toute l'émission sur le statut des cheminots et des retraites, mais pour avancer à Alice de Rochechouart, où se logent, selon vous, les privilèges que vous identifiez dans la société française ? Vous évoquiez un peu plus tôt les ministres. On voit bien le privilège des anciens ministres, notamment parce qu'ils ont un certain temps une rémunération de 3 mois, parce que certains d'entre eux, notamment les premiers ministres et les ministres de l'Intérieur, ont une protection particulière durant plusieurs années. Mais où sont les avantages, les privilèges des élus en général ?
Les privilèges.
C'est vous qui évoquiez un peu plus tôt dans la discussion les privilèges des élus.
Il me semble que les récentes polémiques sur les notes de frais peuvent nous illustrer le fait qu'il y a aujourd'hui un problème majeur de à la fois de corruption, de non-transparence et de.
Mais ça, ce sont des privilèges ou des problèmes de probité ?
Mais le problème, c'est
est-ce qu'on peut. Ce sont statutairement des choses auxquelles ils ont droit et accès inscrites dans la règle et le droit, en l'occurrence.
De quoi ? De faire des notes de frais abusives ?
Des frais à l'excès.
Mais oui, mais le problème, c'est que c'est un système qui s'entretient, puisqu'en fait, on va donner du pouvoir et on va donner des outils du pouvoir à des gens qui veulent ensuite le conserver. Je ne vais pas parler de la probité personnelle de ces personnes, c'est vraiment pas forcément ce qui m'intéresse de leur moralité individuelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le système. Et aujourd'hui, on est dans un système qui est j'emprunte l'expression au philosophe Jacques Rancière, qui parle d'état de droit oligarchique. C'est-à-dire qu'on vit dans un état de droit, hein, on n'est pas non plus dans une dictature loin de là, mais qui est oligarchique dans le sens où le pouvoir est confisqué par un petit groupe, par une petite caste, en fait, qui va entretenir ses propres avantages, ses propres privilèges. Hein, donc, on parle des notes de frais qui sont un peu anecdotiques, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une classe qui cherche à défendre principalement ses propres intérêts au détriment des gens qui représentent souvent. Et donc, il y a une déconnexion de plus en plus forte. Pour reprendre un autre exemple très récent de l'actualité, on a une classe politique qui refuse catégoriquement la taxe Zucman, alors que 85% des Français et Françaises sont pour. Enfin, aujourd'hui, il y a une déconnexion et donc une colère sociale. Si aujourd'hui on entend à ce point le retour de la contestation des privilèges, à mon avis, c'est parce que ça décrit réellement l'envolée quelque part d'une caste qui s'entoure dans ses propres privilèges.
Ouais. Erwan Lenon, est-ce qu'il s'agit bien là, selon vous, de privilèges et de privilèges qu'il faut abattre?
Les protections, enfin les privilèges des élus.
La situation
élus,
décrite hein. Par Alice de Rochefort, une espèce d'endogamie entretenue, nourrie par les élites politiques et les privilèges qu'ils défendent.
Oui, alors d'abord les privilèges des élus, oui, alors là clairement ce sont des privilèges qui sont pas justifiés. En tout cas, se garder des retraites plus avantageuses, des systèmes chauffeurs, etc. pour les ministres, enfin pour les certains d'entre eux, oui clairement, mais ça c'est parce qu'on est une société de cour. La France est une monarchie républicaine, c'est pas une nouvelle.
Et, on arrive à être d'accord.
Mais absolument, moi je suis pour la séparation des pouvoirs, la décentralisation et évidemment dès lors l'État le plus réduit, parce que ces exemples que vous décrivez sont bien des exemples qui sont protégés aujourd'hui par l'État. Utilisés par les uns par les autres, mais qui sont garantis par la puissance publique. Est-ce que là où je suis plus mesuré et en désaccord, je ne crois pas qu'il y ait une caste aujourd'hui qui dirige la France. Je ne crois pas qu'il y ait une forme de complot conscient de groupes sociaux au détriment des autres. Je pense qu'on est une société française où il y a différents groupes sociaux qui servent, qui recherchent légitimement leur intérêt et que comme l'État est très puissant, ça conduit à ce qu'il multiplie les interventions, il multiplie les protections. On pourrait parler... On pourrait revenir sur l'exemple des entreprises qui demandent des protections contre le commerce international. La concurrence internationale. Mais on pourrait aussi donner un exemple, moi, qui m'est cher, celui de l'éducation. Dans l'éducation, quand vous prenez les statistiques, il y a deux groupes sociaux dont les enfants réussissent particulièrement bien. Je vais le dire de manière très caricaturale, mais c'est les gosses de riches et les fils de profs. Est-ce que les gosses de riches, parce qu'il y a un capital économique et pour les fils de profs, un capital culturel qui est là. Est-ce que il y a une situation qui est certes protégée dans un certain nombre de cas. Est-ce que c'est un privilège qu'il faut détruire? Est-ce qu'il y a un complot des profs pour protéger leurs enfants dans le système éducatif? Je pense pas. Je pense que chacun a globalement un intérêt à défendre sa situation et à la consolider par la décision publique. Et c'est cette agglomération qui fait que la société française est figée.
Je fais juste dans ce débat un pas en arrière et on reviendra sur ce que vous étiez en train d'évoquer les uns les autres. Mais je voudrais revenir sur votre point d'accord, justement. Vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire il y a un privilège de la situation de l'élu aujourd'hui, de l'élu en France. Est-ce que on ne court pas, en se disant cela, aussi le risque du populisme? Je veux dire par là, est-ce que la situation de l'élu français aujourd'hui est si avantageuse? Lorsqu'on observe la situation des maires, hein, des 35 000 communes françaises, lorsqu'on regarde aussi à quel point il est parfois difficile d'être élu aujourd'hui à tous les niveaux, est-ce que fondamentalement, ce sont un ensemble de privilégiés qu'il faut catégoriser indistinctement? Alice de Rochechouart.
Oui, alors les maires, peut-être pas. Les maires, c'est une situation très particulière. Hein. Puis les maires, c'est pareil.
Les maires, les conseils départementaux, les conseils régionaux, l'ensemble des élus, ils sont quand même très nombreux.
Oui, bien sûr. Il me semble quand même... Bon, déjà, on est dans un État qui est particulièrement centralisé en France, donc la majeure partie des décisions se prennent quand même à Paris. Donc je pense que c'est plus intéressant de focaliser sur l'Assemblée nationale et il y a une fausse décentralisation en France, à mon avis. Je dis pas ça pour disqualifier le travail des maires, qui est suffisamment difficile, mais les maires témoignent justement du fait qu'ils se heurtent en général au fait qu'ils n'ont pas beaucoup de latitude. Donc c'est plus intéressant à mon sens d'aller regarder ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, en fait, il y a qu'à regarder la sociologie de l'Assemblée nationale, puisque presque les trois quarts proviennent de classes riches, alors qu'elles représentent même pas 22% de la société française. Je pense que c'est là aussi on peut se rendre compte. Alors, je voudrais juste m'inscrire en faux contre le terme de complot, qui résonne finalement avec le terme de populisme aussi, parce que ça donne l'impression d'une petite casse qui tire les ficelles. Moi, c'est pas ça que je défends. Je pense qu'il y a des groupes qui défendent leurs propres intérêts, qui sont conscients de leurs intérêts. De là à parler d'un complot, ça me paraît un petit peu excessif. Parce que certains élus sont sans doute très sincères dans leur volonté de défendre leurs représentants. Mais de fait, ils ont été socialisés avec un certain nombre de valeurs qu'ils veulent défendre. C'est-à-dire qu'on intériorise les privilèges. Ça, c'est quelque chose que je montre dans le livre. Les privilèges, c'est pas qu'une structure sociale qui nous échappe. C'est aussi quelque chose que chacun et chacune, on va intérioriser. Et ça signifie que les privilèges ne se situent pas qu'au niveau de la classe dirigeante. J'explique dans le livre qu'il y a ce que j'appelle une tresse des privilèges, c'est-à-dire un certain nombre de hiérarchies, une multiplication de hiérarchies qui concerne pas uniquement d'ailleurs la situation financière, mais aussi le genre, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la santé, si on est valide ou en situation de handicap, l'âge. Et voilà, il y a tout un ensemble de hiérarchies qu'on va intérioriser. Et finalement, chacun va aussi défendre ses propres intérêts dans cette histoire.
Mais il me semble, pardonnez-moi, je suis embêtant, Alice de Rochechouart, que vous entrelacez deux questions qui sont pourtant bien distinctes. Est-ce que le statut de l'élu est un statut de privilégié, ou est-ce que les personnes qui nous représentent à l'Assemblée nationale sont issues de milieux privilégiés? Ce sont deux choses bien différentes, Erwan Lenoir.
Oui, alors je suis d'accord, ce sont deux choses différentes. Pour revenir sur ma réponse sur les élus était, si on parlait des avantages qui sont au bénéfice d'anciens membres de l'exécutif, longtemps après, toujours après leur mandat. Moi, je pense pas que les élus de manière générale, mais pas que les maires, les conseillers municipaux, départementaux, régionaux, beaucoup de députés et groupés un grand nombre d'élus. Il se trouve que à titre personnel, j'ai eu une épouse qui a fait beaucoup de politique.
C'est une privilégiée.
Écoutez, c'est moi qui suis privilégié de l'avoir, bien sûr. Mais non, c'est un dévouement, la politique, élu local, mais même national. C'est un dévouement dont, je pense, beaucoup de citoyens ne mesurent pas la violence, l'accaparement, l'abandon d'un certain nombre d'éléments de sa vie privée, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile. Quand vous recevez des menaces de mort à la maison, c'est très désagréable. Quand vous êtes insulté parce que juif, c'est très désagréable. Quand vous êtes violenté dans la rue par vos opposants politiques, c'est très désagréable. Et il est normal qu'un certain nombre d'entre eux abandonne assez rapidement l'expérience politique et tout ça, il suffit de voir les réseaux sociaux, mais pas que, pour vous connaître la violence de ce que c'est l'engagement politique. Donc, je crois pas que ce soit ni une caste, ni des privilégiés. Par contre, dans notre société, il y a un certain nombre de mécanismes et à nouveau d'interventions publiques qui ne donnent pas les bonnes incitations. Par exemple, quand vous êtes élu et que vous avez un détail mais banal, mais le gyrophare pour un nombre d'entre eux qui vous permet de ne pas être un citoyen lambda dans la rue, vous avez l'incitation à l'utiliser. Je pense que c'est un privilège idiot et qui pourrait être facilement supprimé. C'est ces petites choses là et c'est ces petites choses là, ces petits privilèges comme ça, qui à mon avis font bien plus de mal à la démocratie que des mécanismes d'une caste dominante. Je crois pas moi qu'on ait une caste dominante aujourd'hui qui consciemment dirige la France.
Est-ce que vous êtes d'accord, Alice de Rochechouart, avec cette idée selon laquelle ce sont des petits privilèges souvent symboliques, souvent insignifiants, même sur le plan strict financier, budgétairement, n'emporte pas la dette française, et pourtant cela coûte très très cher politiquement, notamment dans le lien de confiance entre les Français et leurs représentants.
Oui, mais je pense que c'est un peu anecdotique quelque part, je suis d'accord, mais ça révèle une dynamique un petit peu plus large. Vous disiez que je confondais la question du statut et de la sociologie des élus, mais je pense qu'en réalité c'est un peu la même question, parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on est face à des élus qui ne sont pas totalement responsables. Il y a une certaine impunité des élus, malgré tout, aujourd'hui. C'est ça, le vrai, véritable privilège. On l'a vu avec les notes de frais, on le voit avec l'attitude d'Emmanuel Macron qui... Voilà, elle vient de là, la défiance et la déconnexion. Elle vient pas de... Bon, le gyrophare, évidemment, c'est énervant, mais je suis pas sûre que ce soit le cœur du problème. Donc, le statut, aujourd'hui, il incarne quelque chose presque d'intouchable. Enfin, c'est un peu ça dont on a l'impression avec la question des élus. Et c'est un statut qui est inaccessible pour beaucoup. C'est en ça que la sociologie n'est pas anecdotique ici. C'est pas un hasard si ce sont les classes supérieures et qui concentrent par ailleurs tous les autres privilèges, c'est-à-dire être blanc, être en majorité un homme, hétérosexuel, etc. C'est que il y a une barrière à l'accès aujourd'hui au fait d'être élu. Et c'est ce que montre la science politique. Finalement, les citoyens et citoyennes vont de plus en plus s'abstenir parce qu'ils et elles ne vont pas se reconnaître dans les élus qui sont censés les représenter, et ils ne vont pas se présenter eux-mêmes parce que ça coûte très cher, c'est très compliqué socialement, etc. Et en fait, tout le monde ne peut pas devenir élu. Donc non, c'est pas du tout déconnecté la question du statut et de la sociologie, parce que tout ça arrive à ce que des auteurs de sciences politiques, notamment aux États-Unis, appellent la démocratie par coïncidence. On se rend compte que empiriquement, ce sont les intérêts des dominants ou des privilégiés qui sont représentés dans la société. Et c'est ça qui va accentuer l'écart et la déconnexion et la défiance envers les politiques.
Alors sur ce lien justement entre élus et justice, Nicolas Sarkozy a été condamné il y a quelques semaines à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé assorti de l'exécution provisoire dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Il a été jugé, en tout cas c'est ce que disent beaucoup d'experts de la justice, comme un justiciable comme les autres, et pourtant cela a choqué à l'inverse une partie de l'opinion qu'un ancien président de la République ne bénéficie pas en l'occurrence de privilèges et qu'il soit jugé effectivement comme chacune et comme chaque Français. Il y a une partie très intéressante de votre ouvrage, Alice de Rochechouart, intitulé « Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir », sur la façon dont justement ces privilèges sont naturalisés, ces privilèges sont, j'allais dire, habitués par la population française. Expliquez-nous ce processus.
Ce qui se passe, c'est que comme je le disais tout à l'heure, les privilèges ne sont pas seulement une structure sociale qui finalement nous dépasse. C'est quelque chose qu'on va intérioriser, on va se sociabiliser en intégrant l'idée qu'il y a des hiérarchies, que ces hiérarchies sont justes. Et donc, plutôt que de se dire « et si on défendait une véritable égalité des conditions, on y reviendra tout à l'heure, mais si on défendait une véritable égalité, on va plutôt envier celui qui est au-dessus quelque part. Et donc on va construire un certain nombre de discours. Il y a un certain nombre de discours qui sont là pour justifier l'existence de ces privilèges. Donc on va effectivement les naturaliser. Par exemple, dire oui, mais c'est quelqu'un de très intelligent avec un QI très élevé. Dire il a totalement mérité sa situation. Je pense qu'on va avoir un gros débat ensuite sur le mérite. Il y a un certain nombre comme ça d'artifices rhétoriques qui permettent à tout le monde d'accepter, de légitimer ces privilèges. C'est ce qu'on voit avec Nicolas Sarkozy. Comment peut-on dire ça ne devrait pas être injusticiable comme un autre parce que c'était un ancien président? C'est bien parce qu'il y a une espèce de déférence qu'on a intériorisée et où on nous dit il est supérieur à nous. Mais sauf que ça, c'est à mon avis un symptôme de la persistance de la société des privilèges.
Erwan Lenoir, votre analyse sur ce point?
Cela
choque certaines personnes, certains Français, une partie de l'opinion que Nicolas Sarkozy ait été jugé comme l'ensemble des autres justiciables français.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui se conjuguent. Il y a probablement le fait qu'on est une opinion publique qui est très polarisée et donc des électeurs de droite qui par définition, ou des anciens électeurs de Nicolas Sarkozy par définition le défendent quoi qu'il arrive. Il y a ensuite un autre élément dans le débat qui était, là j'avoue ne pas savoir, qui était un débat sur le fond du jugement et qui était quand même largement un peu utilisé par Nicolas Sarkozy et par un certain nombre de ses alliés politiques. Et puis on est quand même dans un, je le disais tout à l'heure, on est dans une monarchie républicaine, donc on a une forme de déférence, vous le disiez, vis-à-vis du chef de l'État. On a quand même l'habitude de confondre à la fois d'appeler le chef de l'État le chef des Français, le représentant des Français. Enfin, c'est le chef de l'État. Formellement, c'est le chef d'une administration. Ça n'est pas mon chef. Et donc il reste des persistances monarchiques, mais qui sont assez bien historiquement documentées dans l'histoire française et probablement d'ailleurs un peu plus à droite dans l'imaginaire politique. Oui, ça c'est évident.
Quel lien faites-vous, Alice de Rochechouart, entre la notion de privilège et celle de méritocratie que vous pourfendez largement?
Oh là, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Le mérite, la méritocratie, est une des grandes armes rhétoriques pour justement justifier les privilèges. Ou pour dire non, ce ne sont pas des privilèges, ce sont des avantages mérités. C'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent.
Si un tel a réussi, ce n'est pas parce qu'il il est privilégié, c'est parce qu'il le mérite. Il est intelligent ou il est fort, etc.
Exactement. Et donc, à partir du moment où on dit que c'est mérité, on annule immédiatement le terme de privilège. Ce n'est pas un privilège. Bon. Donc, c'est un terme, c'est vraiment quelque chose de très fort aujourd'hui dans l'attirail idéologique. Sauf que, en fait, la méritocratie, il y a deux points. Déjà, d'une part, c'est totalement faux. 50 ans de sociologie nous montrent qu'il n'y a pas de méritocratie en France aujourd'hui. Mais à vrai dire, ça m'intéresse un peu moins cette partie-là. C'est une illusion. Bon, voilà. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de montrer que c'est un principe qui est en réalité injuste, la méritocratie. Et je suis pas la seule à le montrer. Il y a toute une tradition de philosophie politique contemporaine qui s'intéresse à ça. Je pense par exemple à Michael Sandel, qui a écrit un livre qui s'appelle La tyrannie du mérite, ce qui est absolument remarquable.
Un philosophe américain.
Philosophe américain, oui. Et qui montre, en fait, que la méritocratie, dont, petite parenthèse, qui est au départ un terme inventé par un Anglais, un Britannique, Michael Young, et qui, en fait, écrit un roman dans lequel la méritocratie est une dystopie. Parce que justement, tout le monde pense avoir mérité sa place et donc devient très méprisant envers ceux d'en dessous. Et ceux d'en dessous disent qu'ils ont mérité leur échec. Ce qui est intéressant, c'est que ce terme, qui était au départ un terme très péjoratif, a été ensuite réhabilité pour devenir une valeur défendue par une grande partie de la classe politique. Bon, ça on peut y réfléchir. Je reviens sur ce qui fait que le mérite est un principe injuste. Eh bien, tout simplement parce que déjà, on ne sait pas très bien quels sont les critères du mérite. Est-ce qu'on mérite parce qu'on a été, on s'est comporté de manière morale ou parce qu'on a été efficace? Bon, déjà, on peut discuter de ça. Ensuite, parce que ça présuppose que la nature est une sorte de juge comptable, où finalement les actions sont rétribuées de manière presque mécanique. Et ça, il suffit d'exister pour savoir que c'est évidemment faux. Troisième chose, et ça c'est important, ça implique que nous sommes responsables de tout. Et or, où s'arrêter? On n'est évidemment pas responsable du fait d'être né dans une famille aisée. On n'est pas responsable d'avoir un handicap ou non. On n'est pas responsable des accidents de la vie. Donc en fait, la méritocratie, et là je cite Michael Sandel, qui dit que le mérite n'est pas un remède à l'inégalité, mais sa justification. En fait, comme je le dis dans le livre, la méritocratie, c'est un opium du peuple, pour reprendre l'expression employée entre autres par Karl Marx, dans le sens où ça va donner l'illusion qu'on pourrait s'élever pour finalement maintenir le statu quo et faire accepter à tout le monde cette injustice.
Votre point de vue, Roy Lenon, est-ce que la méritocratie est un faux remède à l'inégalité?
Non, la méritocratie, c'est un mythe. Mais c'est un mythe essentiel aux sociétés démocratiques. Il n'y en a pas d'autres qui permettent d'organiser librement et démocratiquement des sociétés.
Un mythe que vous défendez.
C'est un mythe, mais l'idéal démocratique repose sur un certain nombre de mythes qui sont très importants pour organiser la société. Et la méritocratie, elle émerge avec les révolutions françaises, américaines, elle se déploie. Sur une logique assez simple, avant, votre sort, pour le dire très schématiquement, était lié à votre naissance, à un élément divin. Votre destin ne vous appartenait pas. La société démocratique dit maintenant, ça repose sur chaque individu, parce que chaque individu tous les individus sont libres et égaux en droit. Ça veut dire que chacun doit pouvoir se déployer et déployer son talent, sa façon d'être. Est-ce que c'est systématiquement vrai? Non. Est-ce qu'il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres? Évidemment. Est-ce que ça fait peser sur les individus une responsabilité qui est lourde? Parce qu'effectivement, vous le disiez, la contrepartie de la méritocratie, c'est que si vous devez à vous-même votre réussite, vous devez aussi en partie à vous-même votre échec. Et c'est socialement évidemment compliqué. Mais il n'y a pas d'autre alternative dans des sociétés démocratiques qui aient fonctionné.
Mais est-ce que l'argument que vous développiez un peu plus tôt, Erwan Lenon, et notamment, vous le disiez caricaturalement à dessein, ceux qui réussissent aujourd'hui à l'école, ce sont et les profs, et les fils de profs, et les fils de riches. Est-ce que cette idée-là ne contrevient pas absolument à l'idée méritocratique?
Non, parce que ça n'invalide pas la méritocratie, ça invalide le fonctionnement du système scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'enfants défavorisés ne réussissent pas? Et je trouve que j'ai eu des associations qui accompagnaient des lycéens de ZEP. Il y a plein d'enfants très doués dans ces établissements, il y a plein d'enfants qui ont envie de réussir, mais il faut la carte scolaire, les cantonnent dans des quartiers où personne n'a envie d'aller, et y compris les enseignants n'envoient pas leurs propres enfants. Ça les cantonne dans des carrières où, par principe, on sait très bien qu'ils ne réussiront pas, mais parce qu'il ne faut pas le dire et que tous les établissements sont censés être égaux, on les y laisse. Il y a une faillite de la fonction de la puissance publique, pardon, dans les sujets éducatifs, qui vient mettre en défaut la méritocratie.
Alice de Rochechouart, un mythe essentiel malgré tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant ?
Alors, ça dépend pour quoi faire. C'est un mythe essentiel si on cherche à justifier les inégalités. Vous êtes en fait en accord avec Michael Sandel en disant ça. La méritocratie est là pour dire le fait qu'il y ait des inégalités est juste et acceptable. Moi, je porte le discours inverse, qui est de dire les inégalités, ou en tout cas, alors, disons les privilèges, parce que les inégalités...
C'est la même chose.
Mais oui, mais en fait, à partir du moment où vous dites qu'il y a des inégalités qui peuvent être méritées, vous dites bien qu'il y a des hiérarchies qui sont justifiées.
Ah, mais absolument. Parce que vous mettez sur un terrain de foot avec Mbappé, sur le marché du football, très mauvais, il va être beaucoup plus valorisé que moi, et ça me semble illégitime et inégal, injuste pour moi, mais assez légitime.
Alice de Rochechouart.
Non, parce que, en fait, là, à mon avis, vous faites une inversion causale. Enfin, pardon, parce que vous dites que, en fait, ce sont les talents, quelque part. Vous avez parlé du talent tout à l'heure. Le talent serait comme une espèce de pouvoir magique dont on dispose à la naissance. Or, et que ce seraient les talents et les aptitudes qui détermineraient les places dans la hiérarchie sociale derrière. C'est ça que dit la méritocratie. Et vous parlez d'Mbappé, c'est exactement ça, pour le foot. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, les études empiriques disent le contraire. Disent que c'est bien plutôt la place dans la hiérarchie qui va déterminer les talents et les aptitudes. En fait, le talent est aussi un mythe. Au bout d'un moment, c'est un château de cartes qui s'effondre et on ne peut pas faire tenir un système, ou en tout cas prétendre qu'on est dans une situation de justice sociale, alors qu'on dit bien que c'est faux, ça maintient les statu quo.
Il n'y a pas de compétences naturelles, innées, qu'on aurait, j'allais dire, dès le berceau ?
Ça a été complètement contredit par une grosse partie des neurosciences. Je vous réfère là à l'ouvrage de Sama Karaki, qui a écrit « Le talent est une fiction », qui démontre ça extrêmement bien. Aujourd'hui, voilà, c'est pour moi une réminiscence justement de l'aristocratie, où on disait qu'il y a certaines familles où il y a des meilleurs gènes. Enfin, tout simplement, on en arrive forcément à ce genre de discours-là. Je voulais revenir sur une phrase que vous avez prononcée qui m'intéresse. Vous avez dit cette phrase « Il n'y a pas d'alternative ». Une phrase extrêmement connue qui a été prononcée par Margaret Thatcher il y a quelques années maintenant, et qui justement bouche l'horizon. On nous dit que nous n'avons pas d'alternative.
Quelles sont les alternatives démocratiques à la méritocratie ? Démocratique ?
Bien sûr. Alors ça, j'y consacre tout un chapitre dans mon livre, donc je me ferai un plaisir
de discuter. Vous avez une quarantaine de secondes, Alice, pour nous en présenter les grands traits.
Juste une valeur qui pourrait remplacer le mérite, parce que le mérite implique une hiérarchie, encore une fois, et implique qu'il y a des gagnants et des perdants. Moi, je pense qu'on peut penser aujourd'hui à une valeur comme l'entraide, la contribution au bien commun. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait valoriser dans notre société, qui est valorisé dans plein de sociétés, d'ailleurs.
C'est incompatible avec la méritocratie.
Parce que la méritocratie va dire que s'il y a des gens qui dominent, c'est absolument mérité. C'est bien exactement l'inverse de la question de si vous allez évaluer la justice.
La méritocratie vous dit que s'il y a des hiérarchies, c'est légitime, et que l'important, c'est qu'il y ait la concurrence pour remettre en cause ces hiérarchies.
Et la concurrence, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu l'inverse de l'entraide. Je vous invite à relire toutes les traditions.
On n'a pas le temps, mais non.
Bien sûr que si.
On vous a mis...
c'est coopération. Moi, je vous parle de coopération, vous me parlez de concurrence. Mais je pense qu'on est dans des paradigmes totalement irréconciliables. Le problème aussi, c'est que si on veut vraiment tirer jusqu'au but... Pardon, il faut que je m'arrête.
Non, c'est bon.
Mais je voudrais m'arrêter, j'ai plein de pistes dans le livre, mais sur l'entraide et la coopération, qui sont des grandes théories qui sont aujourd'hui beaucoup revalorisées, qui me paraissent bien plus enthousiasmantes que la compétition, la concurrence et la méritocratie.
Pour se plonger donc dans deux paradigmes bien différents, on l'aura compris, je recommande la lecture de vos deux ouvrages, Privilèges au pluriel, Ce qu'il nous reste à abolir, c'est signé Alice de Rochechouart, et L'obsession égalitaire, comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice, c'est signé Erwan Lenoir. Merci à vous deux d'avoir débattu
merci
ce soir
beaucoup.
Dans Questions du soir, et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Juliette Moëlic, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey, Antoine Héral.